Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe en cette semaine où les polémiques autour de la vaccination européenne se poursuivent et où des pays, notamment l'Italie, reconfinent massivement. Nous recevons un Italien, ancien président du Conseil en Italie, en charge aujourd'hui des affaires économiques de l'Union européenne, le commissaire Paolo Gentiloni. Bonjour monsieur le commissaire.
Bonne journée à vous.
Chez vous, en Italie, vous appartenez à la famille des démocrates, un parti de centre-gauche. Vous avez été ministre de Romano Prodi en 2006, puis de Matteo Renzi en 2014. Son successeur, Giuseppe Conte, du mouvement populiste 5 étoiles, propose votre candidature à la commission von der Leyen. Vous êtes donc chargé de l'économie au moment où les 27, à peine sortis de la crise de la dette, sont aujourd'hui balayés par cette crise du coronavirus.
Alors, il y a un peu plus d'un an, l'OMS a d'ailleurs déclaré l'état de pandémie. Votre pays était déjà dans l'œil du cyclone. C'est aujourd'hui, par exemple, un ministre comme le ministre allemand de la Santé déclare qu'il n'y a pas assez de vaccins en Europe pour arrêter la troisième vague. Est-ce qu'on a, à 27, mieux ou moins bien géré que les autres?
Bon, naturellement, il faut accélérer. On est très engagé, je crois, dans tous les pays et à niveau européen pour faire si que ça soit possible. Et maintenant, dans ce moment-là, on a vacciné 12% de nos citoyens. Et il faut aller plus vite si on veut arriver, et je pense qu'on peut arriver, à ce qui est notre but, d'arriver à vacciner le 70% des adultes en Europe à la fin de l'été. Les problèmes qu'on a dérivent de le fait qu'il faut renforcer les capacités productives des industries qui font ce travail. Et j'apprécie beaucoup ce que mon collègue, le commissaire Thierry Breton, est en train de faire pour rendre possible cet renforcement de la capacité productive, mais naturellement, on ne doit pas donner l'idée, à mon avis, que le fait qu'on est en train de travailler ensemble entre pays européens est le problème. Je pense au contraire que c'est la solution. Et je pense que si on aurait fait ce travail sur les vaccins chacun pour soi en Europe, nous serions maintenant dans un cauchemar. Alors, on n'est pas dans un cauchemar, on a un retard qu'on peut combler.
Alors, nouvelle polémique de la semaine, la dangerosité du vaccin AstraZeneca qui provoquerait des thromboses, il y a eu quelques cas. L'agence européenne a finalement blanchi ce vaccin qui était suspendu dans de nombreux pays. Alors certains vont reprendre tout de suite la vaccination, mais dans un climat de défiance, est-ce que c'est réparable ?
Il faut un travail commun de persuasion sur le fait que AstraZeneca est un vaccin sûr. Je pense que le fait que l'Agence européenne et l'Europe en général a eu une attitude de précaution peut être appréciée par nos concitoyens, parce qu'il s'agit naturellement de vaincre la bataille contre le virus, mais aussi il s'agit d'éviter des risques pour notre santé. Et je pense que avec cette attitude sérieuse de contrôle que l'Agence européenne a eue, on peut travailler pour convaincre tous les citoyens qu'il faut se vacciner et que se vacciner est un privilège, plus qu'un risque, je devrais dire.
Alors certains gouvernants néanmoins jugent que l'achat des vaccins gérés par Bruxelles est un fiasco. Ils agissent en leur nom pour s'approvisionner par d'autres canaux. Les négociateurs européens étaient-ils les bons? Ils étaient plutôt habitués aux accords commerciaux très souples et pas aux droits privés des labos. Et puisqu'ils étaient aussi à la hauteur en négociant les prix plutôt que les livraisons?
Moi je ne pense pas. Franchement, je crois que on a délivré 100 millions de doses dans le premier trimestre. On va délivrer entre 300 millions et 400 millions de doses dans le deuxième trimestre. Et on est là pour rejoindre notre but que je rappelais de 70% des adultes à la fin de l'été. Comment est-ce que ça sera été possible de faire tout ça chacun pour soi? Parce que naturellement, le fait qu'on a travaillé pour de centaines de millions de doses a fait possible pour l'Union européenne d'avoir un portfolio de vaccins qui va de vaccins qui ont eu une très bonne réussite très rapidement, comme le BioNTech Pfizer et autres, et des vaccins qui ne sont pas encore arrivés sur le marché, comme par exemple Sanofi ou des autres. Et seulement un bloc qui peut demander des centaines de millions de doses, on a prénoté plus que 2 milliards de doses, avait la force de négocier un portfolio si large. Si vous voulez, la preuve de ce fait est que malheureusement, il y a des pays entre les 27 qui ont plutôt décidé sur un ou deux particuliers vaccins qui sont maintenant en difficulté parce qu'il s'agit exactement des vaccins qui sont en retard sur leur livraison. Et naturellement, il faut aider ces pays sur le plan communautaire.
Alors,
Alors, je pense que l'acquis commun des vaccins a été une très bonne chose. Maintenant, naturellement, il faut accélérer, accélérer, accélérer.
à l'extérieur de l'Europe, on voit que certains pays bloquent les exportations de vaccins. Ça a été le cas des États-Unis, même s'ils sont peut-être en train de changer d'attitude. Le Royaume-Uni également. Et puis l'Union européenne s'est mise à son tour. Elle a bloqué notamment des livraisons d'AstraZeneca destinées à l'Australie. C'est Mario Draghi qui en a décidé. Ces mesures sont protectionnistes. Est-ce qu'elles ne sont pas contre-productives?
Non, je pense que on a pris une décision qui se réfère à 250 000 doses du vaccin AstraZeneca qui était dirigée vers l'Australie. On n'a rien naturellement contre l'Australie, mais on a à discuter avec AstraZeneca qui, seulement pour vous donner l'exemple du deuxième trimestre de cette année, s'était engagé pour 180 millions de doses et on va délivrer seulement 70 millions. Alors, on comprend les difficultés de production, mais on ne peut pas comprendre si ces difficultés sont particulièrement sérieuses et graves pour l'Union européenne et pas si sérieuses pour d'autres acteurs économiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On bloque pas nos exportations. C'est ridicule de décrire l'Union européenne comme une union protectionniste sur les vaccins. Nous sommes le grand acteur économique qui a exporté plus de vaccins dans ces mois, by large, beaucoup plus que les autres.
Paolo Gentiloni, vous avez annoncé des prévisions de croissance de plus 3,8% pour la zone euro en 2021, après une chute historique de 6,8% l'an passé. Vu la lenteur de cette campagne de vaccination, est-ce que ces prévisions vous semblent encore tenables?
Oui, je dirais oui. Naturellement, le travail de faire des prévisions économiques dans cette situation n'est pas facile et en fait, on les change fréquemment. On avait par exemple des prévisions beaucoup plus pessimistes sur 2020 et à la fin, la croissance négative a été très forte, 6,5%, mais pas si forte comme dans nos prévisions. Nous sommes convaincus qu'on aura une croissance près de 4% pour 2021 et 2022. Et c'est un niveau de croissance, 4%, qui est très haut pour nos économies. Nous ne sommes pas un pays qui est habitué, un groupe de pays qui sont habitués à avoir une croissance de 4%. Alors, il faut utiliser cette possibilité pour améliorer nos économies et les rendre plus soutenables.
Alors, la Commission a présenté cette semaine son passeport sanitaire, le certificat vert qui doit sauver la saison touristique des pays comme le vôtre, l'Italie. Alors, est-ce bien réaliste de penser qu'on va pouvoir voyager à travers toute l'Europe? Est-ce que ce passeport est vraiment la solution alors qu'un certain nombre d'Européens, on voit les Français, sont assez réticents?
Moi, je pense que c'est un instrument que la Commission a proposé aux États membres. Naturellement, il s'agit maintenant de, comment on peut dire, de remplir cet instrument qui se réfère pas seulement aux personnes qui sont vaccinées, mais aussi aux personnes qui sont testées et aux personnes qui ont déjà eu le Covid. Ça serait une très bonne contribution au soutien du secteur économique qui est maintenant le plus en difficulté, qui est les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, les voyages, l'entertainment à l'ouvert et dans les salles des cinémas et théâtres, etc. Mais pour le moment, ça sera seulement pour les voyages et seulement avec des dates très simples. Vaccin, test ou maladie qui a été déjà
contracté. Alors, pour faire face à la crise économique, la Commission propose aussi des conditions de prêt avantageuses pour financer des mesures de soutien à l'emploi. C'est le programme SURE. 18 États membres en bénéficient aujourd'hui, parmi eux la Belgique. Reportage tout de suite de notre correspondante en Belgique, Alix Le Bourdon.
On a trois bulles qui viennent ce week-end.
Cette phrase lui aurait paru insensée il y a encore quelques mois. Mais depuis que ce patron sait qu'il peut accueillir des membres de la même bulle, c'est-à-dire du même foyer, il essaie de relancer son centre de laser game, à l'arrêt depuis des mois.
Ça remplit un petit peu le planning. Non, je veux dire, mais vraiment un tout petit peu, on tourne à 5% du chiffre d'affaires.
Depuis le début de la crise sanitaire, Jérôme de Sombre reçoit de l'État belge environ 1 600 euros par mois en tant qu'indépendant.
Ça me permet de vite, mais pas du tout de faire tourner mon activité. Donc moi, ma société, elle est en quasi-faillite.
Face au choc économique, une autre aide est à disposition des chefs d'entreprise, le chômage complémentaire. Cet employé ne travaille plus qu'un jour par semaine.
Le chômage complémentaire sert aussi à ne pas licencier du personnel et donc du coup me permet de encore garder mon poste.
Des aides publiques rendues en partie possibles grâce au programme européen SURE, qui permet aux États membres volontaires d'emprunter de l'argent à des conditions très avantageuses. Avec la crise, cet entrepreneur dans le tourisme a vu la fermeture de son agence de voyage se précipiter. Aujourd'hui, il dépend de ce que lui verse l'État.
Je trouve ça extraordinaire que l'Europe ait pu mettre ça en place. Ce qui me dérange, c'est le fait que c'est une allocation où on ne fait rien. Moi, j'aimerais bien qu'on nous forme.
Avec près de 8 milliards d'euros, la Belgique est un gros bénéficiaire de ce programme. Mais pour le ministre belge de l'économie, il faut aller encore plus loin dans les politiques sociales à l'échelle européenne.
C'est un premier pas important, nécessaire dans la gestion de la crise, mais c'est un premier pas insuffisant. On doit venir ajouter à ces mécanismes, à ce mécanisme de crise, des mesures plus structurelles en matière de droit du travail. On pense notamment au salaire minimum européen.
En tout, 18 États membres bénéficient d'emprunts de l'UE pour un montant maximal de 100 milliards d'euros.
Alors ce soutien dans l'urgence, c'est bien, hein, Paolo Gentiloni, mais la patronne de la BCE, par exemple, Christine Lagarde, a demandé une mise en œuvre sans délai du plan de relance. Est-ce qu'il est engagé suffisamment rapidement pour enrayer un chômage de masse?
Je dirais premièrement que SURE a été un très bon test de ce qu'on peut faire ensemble. Naturellement, il s'agit de prêts et pas de transferts. Mais ces prêts ont été demandés par beaucoup d'États membres, 19 dans ce moment. Il y a 33 millions de personnes en Europe qui ont bénéficié de cette aide supplémentaire qui va à des mécanismes que les pays ont déjà, comme le chômage partiel en France, par exemple. Et on a eu aussi un avantage économique pour les pays qui ont eu ces prêts aux alentours de 9 milliards d'euros seulement pour le mécanisme SURE. Alors, c'est aussi la première fois qu'on a des bonds européens et c'est un grand succès. Maintenant, vous avez raison, le défi est d'aller rapidement avec le plan de relance. Et on est en train d'y travailler très bien. Je dois apprécier la contribution de mon ami Bruno Le Maire qui a toujours poussé pour avoir rapidement ces plans approuvés. On a maintenant 13 pays qui ont ratifié les accords sur le plan juridique qui rendent possible à la Commission d'aller dans les marchés à financer ce Next Generation EU. Et j'espère qu'on aura reçu la plupart des plans nationaux. Mais il faut y travailler beaucoup dans les semaines qui viennent.
Alors, le pacte de stabilité et de croissance n'est plus du tout appliqué depuis l'an dernier. Ça, on est fini de la règle des 3% de déficit, des 60% de dette par rapport au PIB. On parle aussi d'un remodelage de ces règles. Alors, on va abandonner définitivement celle-là, vraiment. Est-ce que vous y êtes favorable et est-ce que vous avez des pistes pour faire évoluer ce pacte?
Les décisions qu'on a prises il y a un an, exactement il y a un an, ont été des décisions sur l'urgence. On a suspendu nos règles budgétaires, on a suspendu nos règles de l'aide d'État et la Banque Centrale Européenne a livré son programme extraordinaire pour rassurer les marchés financiers. Je pense que tout ça a été très bon. Il a rendu possible la réponse expansive, 8% du PIB de tous les pays européens en 2020. Maintenant, on doit continuer, je crois, avec cette politique de soutien à l'économie et on doit commencer quand on aura un peu plus de clarté sur l'avenir de nos économies, la discussion sur la révision de règles. Il ne s'agit pas d'annuler la dette, il ne s'agit pas de changer le traité, il s'agit de rendre nos règles plus cohérentes avec la nécessité d'avoir plus d'investissements et avec la nécessité d'une dette publique qui est maintenant à 100% en moyenne dans la zone euro. Alors, si on veut être sérieux, il faut aborder ces deux problèmes après la crise, depuis qu'on aura quelques certitudes en plus sur la situation économique.
Dans votre pays, en Italie, le nouveau chef du gouvernement Mario Draghi a pris la décision de reconfiner très sévèrement après une relative ouverture en février. Alors pourquoi est-ce que votre pays est sur la mauvaise pente épidémiologique? Et puis est-ce que Mario Draghi, Super Mario, va pouvoir redresser de ce point de vue-là et du point de vue des finances aussi?
Oui, c'est vrai en fait que malheureusement l'Italie est, après le Royaume-Uni, le pays européen qui a eu le plus haut niveau de mortalité dans cette crise. Mais je vois qu'il y a des mesures de restriction à nouveau dans beaucoup de pays européens, et, y compris l'Italie, mais malheureusement ce n'est pas seulement le cas d'un pays, c'est maintenant la 16 ou 17 pays européens ont les infections à nouveau en la hausse. Alors, la solution est dans le vaccin. Je peux dire en tant que commissaire aux affaires économiques que je pense que les conséquences économiques de ces nouvelles restrictions ne seront pas du tout comparables à celles qu'on a eues dans le printemps de l'année dernière. Elles seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus limitées, mais il ne faut pas évaluer seulement les conséquences économiques. Il y a des conséquences pour la vie de nos citoyens, pour la vie des plus jeunes, et il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués. Et alors, il faut donner aussi le message que c'est le dernier effort et que grâce au vaccin, on peut, dans les prochains mois, avoir une situation meilleure et plus ouverte.
Oui, parce que les Européens ont tous envie de retourner visiter votre pays, par exemple. Paolo Gentiloni, merci d'avoir répondu à l'invitation de RFI et de France 24.